soir. Actualité comme tous les vendredis. Aujourd'hui, un seul thème d'actualité en compagnie de notre partenaire, le magazine L'Histoire, de l'antisémitisme au négationnisme. Nous avons appris la disparition de Robert Forisson cette semaine à 40 ans exactement de la parution de l'entretien dans l'Express avec l'ancien commissaire général aux questions juives, Darquier de Pellepoix, dans lequel il avait déclaré qu'à Auschwitz on n'avait gazé que les poux. C'était le prélude à plusieurs articles et entretiens avec donc Robert Forisson sur ce qu'on appelait alors le révisionnisme et que les historiens appellent désormais le négationnisme. Comment est-on passé justement de l'antisémitisme traditionnel des années 30 et de la Seconde Guerre mondiale à ce négationnisme? C'est ce dont nous allons discuter avec Valérie Hanin, qui est directrice de la rédaction du magazine L'Histoire, avec Valérie Higounet, qui est historienne, auteure d'une histoire du négationnisme en France, mais également de Robert Forisson, portrait d'un négationniste. Elle est directrice adjointe du Conservatoire du Conspirationnisme, de l'Observatoire du Conspirationnisme. Laurent Joly est également avec nous. Il est directeur de recherche au CNRS et le dernier livre de Laurent Joly vient tout juste de paraître chez Grasset, L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite. Tal Brutmann sera également avec nous au téléphone. Il est historien, il est auteur d'un Auschwitz aux éditions de La Découverte. Bonjour Valérie Hanin.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous donc pour notre émission mensuelle avec le magazine L'Histoire dont vous dirigez la rédaction et qui vient de publier une enquête très approfondie grâce à de nombreux chercheurs et en particulier à Anne Simonin qui s'intitule 1940-1944, collaboration antisémitisme, la responsabilité des intellectuels, en particulier autour du procès Céline. On va commencer justement sur cette question de l'antisémitisme et de ce qui est, disons, très neuf dans ce dossier de L'Histoire, avant de nous poser la question de savoir quels sont les liens entre cet antisémitisme de Céline et d'autres écrivains de la Seconde Guerre mondiale, donc avec le négationnisme qui vint ensuite. Pourquoi ce dossier et quelle est l'occasion justement de ce travail d'Anne Simonin pour pouvoir mettre en avant, disons, une nouvelle version de ce qu'a été le procès Céline en 1950 et son amnistie en 1951?
Alors, pourquoi ce dossier? Le dossier a répondu en fait à une double actualité. Il y a eu l'actualité au printemps dernier causée par l'annonce que les éditions Gallimard, qui sont déjà les éditeurs évidemment dans la prestigieuse pléiade des romans de Céline, la réédition éventuelle des pamphlets antisémites de Céline. Et ça a causé un émoi évidemment qui est un peu retombé lorsque le projet a été peut-être momentanément abandonné, mais qui a fait rejouer la question de l'antisémitisme de Plume, de la responsabilité des écrivains, de la manière dont Michel Vinocq le rappelle dans ce dossier, l'antisémitisme à la sortie de la guerre est devenu un crime. Et puis il y a, c'est pour ça aussi que nous avons décidé de publier ce dossier, la recherche tout à fait nouvelle et très une vraie surprise que nous permet de publier Anne Simonin lorsqu'elle va refaire en quelque sorte le procès Céline pour le reprendre à nouveau frais et nous livrer un article d'un véritable roman policier qui remet en cause complètement les idées reçues. L'idée reçue, c'est que le procès Céline est une mascarade, ou en tout cas qu'il a été très clément, et que l'amnistie de 51, alors là, est une vraie rigolade.
C'est d'ailleurs la version que donnait Céline de cette affaire.
C'est une légende, c'est une légende qui a été accréditée par Céline lui-même et complaisamment colportée par Tixier-Vignancourt pendant des années. Qui a été reprise depuis. Or, ce qu'établit Anne Simonin dans ce dossier, c'est plusieurs choses. Je dirais trois choses. D'abord, que Céline a été bien jugée en 1950, qu'il a fait l'objet d'un véritable procès par contumace et qu'il a été condamné à l'indignité nationale. Anne
Simonin
prison.
Est l'historienne de
historienne de l'indignité nationale. Elle a publié un superbe livre il y a 10 ans sur le déshonneur dans la République, l'histoire de l'indignité. Et elle nous rappelle ici, même si c'est pour certains difficile à croire, ce qui est surprenant, parce qu'après tout, l'indignité nationale, c'est quand même l'exclusion de la République. Elle nous rappelle à quel point cette peine est lourde. Et Xavier Vallat, lui-même qui y a été condamné, l'ancien commissaire aussi aux questions juives, dira c'est plus lourd que la prison. C'est une véritable mort civique, l'indignité nationale. Et Céline, au fond, jusqu'au bout, ne cessera de demander une amnistie pleine et entière, tellement cette peine, quand même, est une infamie. Donc, enfin, il y a ce point qui, quand même, nous fait voir un peu autrement le procès de 1950, mais il y a un autre point nous permet de revenir sur une idée reçue selon laquelle on n'aurait pas jugé pour antisémitisme dans les procès d'épuration et à la fin de la guerre. Or, je voudrais juste lire une citation du commissaire du gouvernement Charras, qui dit la chose suivante dans les attendus du procès de février 50, par contumace donc. Si Céline avait parfaitement le droit de faire paraître un tel ouvrage avant la guerre, il s'agit de Bagatelle pour un massacre qui est un festival d'antisémitisme, il l'aurait dû, dit René Charras. Il aurait dû s'opposer à sa réédition, à une époque où les Juifs étaient arrêtés en masse et déportés en Allemagne, dans des camps d'extermination. Céline pouvait peut-être ignorer l'extermination radicale des Juifs telle qu'elle était pratiquée en Allemagne, mais il ne pouvait ignorer la déportation des Juifs. Il ne pouvait pas ne pas s'apercevoir que toute propagande antisémite facilitait cette déportation. C'est-à-dire que, très clairement, Céline a été condamnée pour antisémitisme, et pour un antisémitisme, non pas de plume, mais pour un antisémitisme d'action. Ce qui est tout à fait confirmé par Pierre-André Taguieff aussi dans ce dossier.
Et donc, il y a plusieurs articles dans ce dossier autour de ce cas Céline, mais de cet antisémitisme de plume. Justement, on laissera à nos auditeurs le soin de découvrir peut-être la dernière surprise du travail d'Anne Simonin sur ce procès Céline. Laurent Joly, vous êtes spécialiste de cet antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale en particulier. Vous venez tout juste de publier L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite. Une des questions, et la question qui nous rassemble ce matin, c'est de se demander comment cet antisémitisme qui avait agi, évidemment, dans la destruction des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est transformé ensuite en autre chose, une fois, effectivement, la défaite consommée pour l'Allemagne nazie et pour tous ceux qui avaient collaboré à cette puissance nazie.
Alors d'abord, je voudrais ce qu'a dit Valérie Hanin, je le partage complètement, c'est le dernier chapitre de mon livre sur l'épuration, parce qu'effectivement, il y a cette idée reçue qu'à la libération, l'épuration n'a pas jugé les affaires d'antisémitisme et le rôle de Vichy dans la persécution des Juifs. Le tableau est beaucoup plus nuancé, et il y avait une véritable perception du mal que représente l'antisémitisme. Et ça, c'est quelque chose que même les antisémites doivent prendre en compte. Donc on ne peut plus faire de propagande antisémite comme on le faisait avant. Et donc il faut changer. Il y a cette mutation, Valérie Gounet pourrait le en parler mieux que moi, puisqu'elle y a consacré sa thèse, mais il y a vraiment dès la fin de la guerre, des antisémites qui vont se reconvertir en niant le génocide des Juifs. Et Céline, qui avait cette espèce de génie de l'antisémitisme, l'avait d'ailleurs compris avant même la fin de la guerre. C'est-à-dire que dès février 1944, il a cette phrase en disant, enfin il invente cette notion fondamentale du négationnisme qui est « les Juifs exploitent la Shoah, le Shoah business ». Il avait dit « les Juifs vendront », et c'est cette phrase... C'est cette phrase qu'il tient en février 1944. Alors effectivement, en privé, c'est Jacques-Benoît Méchain qui prend en note. Achetez-moi mes petits sachets. Les Juifs feront commerce de leur supposée extermination. Donc vous voyez, cette idée-là, elle va muter rapidement.
Oui, une des questions, Valérie Gounet, bonjour. C'est de se demander comment se reconstitue ce milieu des antisémites d'avant-guerre et de la guerre dans l'immédiate après-guerre, et comment ils vont retisser des liens, rediscuter entre eux, continuer à travailler ensemble justement dans des journaux qui ne sont pas encore interdits ou par des libelles qu'ils feront paraître sous le manteau justement, pour ne pas arrêter justement leur antisémitisme, pour continuer à le faire agir, Valérie Gounet.
Oui, c'est exactement ce que Laurent Joly disait. C'est un peu l'habileté des antisémites. C'est-à-dire que dès l'après-guerre, ce n'était pas possible de se déclarer antisémite, donc il fallait trouver autre chose. Et c'est vrai que le négationnisme leur permet justement de faire, non pas renaître l'antisémitisme, mais de le poursuivre sous une autre forme. Je vous rappelle que quand même, l'idéologue du négationnisme en France, c'est Maurice Bardèche, le beau-frère de Robert Brasillach, ce n'est pas rien. Ce qui est intéressant dans cette idéologie, c'est que un homme comme Maurice Bardèche se déclarera fasciste sans aucun souci. Par contre, quand vous citiez tout à l'heure Robert Forisson, c'est aussi son habileté, c'est-à-dire que cet homme va se déclarer apolitique. Mmh. Et c'est vrai, pour les avoir rencontrés à peu près tous, quand j'étais allée voir Maurice Bardèche rue Rateau, c'était un homme qui parlait assez tranquillement de son antisémitisme et de son idéologie d'extrême droite. Alors qu'il est évident que quand vous alliez rencontrer Robert Forisson, rue de Normandie, c'était justement ce qu'il ne voulait pas dire. Donc vous voyez, c'est différentes formes de négationnisme, mais bien sûr que l'antisémitisme est consubstantiel au négationnisme.
Et Céline va-t-il participer, puisque c'est un dossier Céline qu'il y a dans ce numéro de l'Histoire qui vient tout juste de paraître, justement à ces discussions avec Bardèche. Annick Durafour, dans votre numéro de l'Histoire, dit en fait, à la suite de Maurice Bardèche et Paul Racinier, qu'il a lu et apprécié, l'auteur distille le doute sur la réalité de l'extermination, Laurent Joly.
Ben oui, c'est, alors moi je sais pas si publiquement dans les années 50, je crois pas qu'il y a jamais eu de... En revanche, oui, il a lu Racinier, je sais plus s'il l'a rencontré.
Je crois pas.
Je crois pas. Mais oui, ce sont des propos privés. Mais ce qui est frappant chez Bardèche, c'est qu'il était, Valérie vient de le rappeler, le beau-frère, enfin l'ami, un proche de Brasillach. Or Brasillach est l'un des rares antisémites français qui a pris conscience de la réalité de l'extermination des Juifs. Et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que Brasillach, en 1943, va dire à ses collègues que je suis partout, parce qu'il est allé, à l'Est, il sait qu'on extermine les Juifs. Et donc, Bardèche, qui a eu forcément des conversations avec Brasillach, ça va pas l'empêcher de nier ce qu'il a su par ses relations personnelles. Quant à Céline, c'est vrai qu'il ne, j'ai lu le livre de Taguieff et de Durafour qui est extraordinaire et qui est extrêmement complet. Il y a peu de mentions. Céline n'en parle pas, parle très peu de ça.
Oui, Valérie Hanna.
Oui, Pierre-André Taguieff qui rappelle dans ce dossier, à la suite de leur beau livre sur le Céline, la race, le juif, publié chez Fayard, que l'antisémitisme de Céline est incontestable, que c'est un antisémitisme, dit-il, nazi, hitlérien. Il va plus loin que le statut des juifs dans ses notes en bas de page des Beaudrats. Il va plus loin que le statut des juifs d'octobre 40 de Vichy. Mais ce qu'on rappelle aussi, Yann Potin le dit, c'est qu'il n'y a pas, c'est pour ça qu'on ne sait pas tout aussi sur Céline, c'est que à ce jour, il n'y a pas de fonds d'archives Céline. C'est-à-dire qu'il y a des papiers qui circulent, mais même s'il y a un fonds à l'IMEC, sous la direction d'André Derval, eh bien, on n'a pas... les archives Céline sont bien, bien loin d'avoir livré tous leurs secrets, si elles en ont encore.
Alors, Valérie Gounet, si on en vient justement à ce jeu de bonneteau, d'une certaine façon, qui fait que les anciens antisémites vont immédiatement se saisir, justement, de cette question des camps d'extermination pour pouvoir les nier. Vous avez cité tout à l'heure le nom de Maurice Bardèche. Donc, Maurice Bardèche publie tout de suite, après la guerre, le livre dont on peut dire qu'il est le début, justement, de ce travail de contestation. C'est en 1948 et ça s'intitule « Nuremberg ou la Terre promise ».
Oui, il le publie justement l'année de la création d'Israël. Ce n'est pas un hasard, hein, puisque, en fait, le discours négationniste va évoluer. Donc, lui, on va dire qu'il pose les fondamentaux. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ces items sont les suivants. C'est-à-dire, bien sûr, le principal, les Juifs n'ont jamais été exterminés. Et pourquoi font-ils croire à ce mensonge? Déjà pour créer un État, 48, Israël, et évidemment aussi, là, le négationnisme va évoluer après, pour expulser un peuple qui, lui, vit un véritable génocide, c'est-à-dire les Palestiniens. Mais ça, c'est vraiment... cette seconde, entre guillemets, argumentation va apparaître. Il y a vraiment une corrélation, évidemment, avec un contexte international, en 67, pendant la guerre des Six Jours, et c'est justement François Duprat qui la met au jour. François Duprat, qui...
fondateur du Front National.
Qui a participé à l'aventure du Front National, qui est de la branche nationaliste révolutionnaire, j'allais dire plus un idéologue du Front National.
Un historien.
qui se dit un historien, qui a écrit d'ailleurs un article qui s'appelle Le mystère des chambres à gaz, et lui n'avait aucun souci par rapport à l'idéologie aussi qu'il transmettait. Et c'est vrai qu'il était aussi un diffuseur à l'international du négationnisme, donc n'est pas rien. Donc ce sont vraiment, comme vous le dites, des personnes qui revendiquent quasiment leur antisémitisme, qui sont à l'origine du négationnisme, sauf évidemment Paul Racinié, qui n'est pas rien, et qui est vraiment une des personnes qui est aussi fondatrice du négationnisme.
Oui, alors il faut aussi insister sur cette figure de Paul Racinié. Paul Racinié, qui est donc un ancien déporté, qui revient socialiste, qui revient de déportation et qui va commencer à douter, dit-il, de l'existence des camps d'extermination, des chambres à gaz, et qui va être rejoint d'une certaine façon. On voit là une aubaine pour beaucoup de gens d'extrême droite que de trouver quelqu'un de gauche ou d'origine de gauche, d'une certaine façon, Valérie Gounet, qui peuvent leur servir en disant, eh bien, il n'y a pas que des anciens collaborateurs, il n'y a pas que des anciens suppôts de la puissance nazie qui ne croient pas à cette histoire des chambres à gaz. Il y a aussi des gens de gauche et en particulier un déporté. Et là, on voit comment se tisse effectivement ce poison négationniste, Valérie Gounet.
C'est un immense cadeau pour eux. C'est-à-dire, comment un ancien déporté, justement, peut-il nier ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, d'ailleurs, par les révisionnistes, il se dénomme comme ça, c'est à lui qu'on va attribuer l'étiquette de fondateur du révisionnisme. Mm-hmm. Hein. Mais ce qui est super aussi intéressant, j'allais dire, c'est que cette alliance, la France a vraiment une spécificité dans l'histoire du négationnisme, c'est-à-dire que c'est quoi l'affaire Forisson en 78, là je vais vite, mais c'est quoi? C'est en fait pourquoi aussi ça fonctionne pour plein d'aspects, pour plein de facteurs, mais aussi parce que Robert Forisson est soutenu aussi par une certaine extrême gauche, vous voyez. Donc évidemment, il y a cet héritage de Racinié qui est énorme et qui est immédiatement récupéré par l'extrême droite. Et d'ailleurs, il va dans cette cour, il s'y précipite. Il va faire des meetings, des conférences dans des cercles néo-nazis, etc.
Donc, en Allemagne en particulier.
Bien sûr,
il est invité pour donner des conférences avec un ancien Waffen-SS qui est l'éditeur de ses textes en Allemagne. Et donc, d'une certaine façon, il va rentrer dans ce cercle et ne plus jamais en ressortir. D'une certaine façon, il aura encore cette sorte de baptême de gauche du départ, mais au bout du compte, il va rester totalement enfermé dans cette histoire-là, même si les libertaires vont tenter de garder auprès d'eux celui qui était proche d'eux des dizaines d'années auparavant.
Ouais, c'est tout à fait ça. Mais Nadine Fresco a écrit sur Paul Racinié une biographie.
Fabrication d'un antisémite.
Tout à fait. Mais vous voyez, ce qui est aussi très intéressant, et ça, j'en suis, presque intimement persuadée pour ces négationnistes, c'est aussi une mise en lumière exceptionnelle. Vous voyez comment je peux dire cette phrase, avec toutes des guillemets très rouges. C'est-à-dire que Racinié, c'est aussi quelqu'un qui voulait être entendu. Et ces personnes-là, je pense aussi évidemment beaucoup à Forisson, le négationnisme leur a permis d'être entendu et d'être exposé. Il ne faut pas l'oublier.
Alors, dans une série d'émissions de France Culture consacrées à cette question du négationnisme, Jean-Marc Turine avait interrogé il avait interrogé Pierre Vidal-Naquet, et qui a été auteur des Assassins de la mémoire. On en parlera dans un instant. Vous aviez d'ailleurs collaboré, Valérie Gounet, à la publication chez Frémaux Associés des disques qui avaient accompagné cet entretien. Voici ce que disait justement à Jean-Marc Turine Pierre Vidal-Naquet à propos de cette forme moderne de l'antisémitisme qu'était le négationnisme.
Dans l'introduction à votre livre, vous achevez en écrivant ceci: il faut comprendre non seulement le comment du mensonge, mais aussi le pourquoi. Alors, le pourquoi du négationnisme?
Il y a plusieurs pourquoi. Il y a d'une part le bon vieil antisémitisme, dont c'est la forme nouvelle. Je n'ai aucun doute sur le fait que le négationnisme est la forme moderne et contemporaine de l'antisémitisme. D'autre part, il y a eu, bien sûr, massivement un soutien de l'extrême droite. Ce n'est pas un hasard si le principal hebdomadaire à soutenir les négationnistes s'appelle Rivarol, et c'est l'hebdomadaire des nostalgiques de Vichy et du nazisme. Mais il y a eu aussi, et ça c'est spécifique de la France, une sorte d'alliance contre nature entre une certaine extrême droite, celle qu'incarnait M. Le Pen ou qu'incarne Rivarol, et une certaine ultra-gauche, celle que symbolise M. Pierre Guillaume.
Voici ce que disait donc au micro de Jean-Marc Turine pour France Culture et pour un disque publié chez Frémaux et associé sur le négationnisme, ce que disait Pierre Vidal-Naquet, Valérie Higounet, Laurent Joly, c'est le constat que l'on peut faire, c'est ce transfert, pourrait-on dire, d'un sujet qui était l'antisémitisme, d'une attitude, pourrait-on dire, Laurent Joly, à autre chose, donc, qui devient le négationnisme dans les années d'après-guerre.
Mais parce que Forisson, il est le produit de l'après-guerre, mais pour moi, il est vraiment le continuateur d'une vraie tradition antisémite, enfin d'une partie de la tradition antisémite française, qui est celle, parce que Forisson, c'est un imposteur, et il y a toujours eu chez les antisémites des imposteurs qui se prétendent des savants. Ça, c'est vraiment quelque chose de très frappant, c'est assez symptomatique, ça remonte à l'affaire Dreyfus, et même avant, lorsque Édouard Drumont sort La France juive, il s'est intitulé La France juive, essai d'histoire contemporaine, il se présente comme historien, il se présente comme sociologue, dans l'édition de 1912, il se présente comme savant. Il y a aussi, du côté de l'Action française, tout ce que j'appelle le premier révisionnisme, c'est-à-dire que des gens qui vont essayer d'expliquer d'un point de vue scientifique que le capitaine Dreyfus était coupable. Et donc ça donne des pavés qui s'appellent, et ça rappelle vraiment la littérature négationniste, parce qu'ils empruntent la rhétorique de la science légitime
et de la
l'histoire positiviste de la preuve. Donc état présent de l'affaire Dreyfus, première vérification, c'est Maurras qui fait toute une série d'articles pseudo-positivistes, c'est le précis de l'affaire Dreyfus, évidence de la raison, je voulais vous l'amener mais j'étais trop chargé, c'est 800 pages, avec des notes infrapaginales, avec un répertoire analytique. Donc vous voyez, Forisson, il est le produit de ça, et pendant la guerre il y avait vraiment, et d'ailleurs Forisson s'est toujours considéré comme l'héritier d'un professeur qui s'appelait pseudo-professeur, pareil, parce que Forisson se faisait passer professeur, n'a jamais été professeur. Labrou aussi se faisait passer professeur, il n'était pas professeur, c'était un historien raté qui a pu se faire propulser pendant l'occupation. Il a eu une chaire d'histoire du judaïsme en Sorbonne, et ça, c'était, Valérie Higounet l'a bien montré, le grand fantasme de Forisson.
Oui, c'était donc la question de se ranger au rang de la science pour dire une vérité scientifique, alors que, comme on le sait, il y avait des falsifications de l'histoire dans tous les écrits de ces négationnistes, Valérie Higounet.
Oui, totalement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous savez, Robert Forisson a fait évoluer le discours sur un aspect totalement novateur. C'est-à-dire que lui, qui était universitaire, hein, il était quand même maître de conférence en littérature française du XXe siècle à Lyon. Donc il pouvait avoir cette apparence de scientificité, même si elle n'était pas réelle. De toute façon, c'est intrinsèque au sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que lui... Il a bien compris que le négationnisme, comme ses prédécesseurs, comme tout ce qu'on a dit tout à l'heure, Bardèche, etc., c'était une idéologie qui ne s'avançait pas masquée, il fallait trouver autre chose. Et il a eu, je vais pas dire un coup de génie, mais lui s'est dit, je vais me focaliser sur l'aspect technique. C'est Forisson qui a fait ça. C'est-à-dire que il est quand même allé aux archives d'Auschwitz, sous des prétextes fallacieux, hein, pour monter une exposition à l'Université de Lyon. Vous imaginez bien, il va voir le conservateur des archives d'Auschwitz, c'est un des premiers à déterrer les plans, on va dire, et ce type se dit, waouh, j'ai mon idée, c'est-à-dire que je vais montrer que techniquement, les chambres à gaz n'ont jamais pu exterminer les Juifs. Et c'est là-dessus, après, évidemment, qu'il y a tout le discours négationniste qui est derrière, et c'est là-dessus qu'il y a quelque chose qui va se passer avec le négationnisme des années 80 et cet universitaire, soi-disant scientifique.
Oui, Tal Brutmann, vous êtes avec nous au téléphone depuis Grenoble, vous êtes chercheur, vous êtes auteur d'un Auschwitz qui est paru il y a quelques années maintenant aux éditions de La Découverte. Je sais que beaucoup de chercheurs, et en particulier Raoul Hilberg, ont dit à un moment ou à un autre de leur carrière, eh bien tout compte fait, ces négationnistes dans les années 70 nous ont obligés, nous chercheurs sur l'extermination, à aller encore plus aux archives, à aller encore plus chercher les sources, à aller encore plus les interroger, parce que ils se prétendaient des scientifiques et il fallait prouver qu'ils ne l'étaient pas, en l'occurrence, Tal Brutmann.
Oui, bonjour. Effectivement, c'est un des fondements de la lutte contre le négationnisme, c'est d'être le plus précis possible, et dans les années 70, et la recherche historique sur la Shoah souffrait de pas mal de choses, notamment du fait qu'elle n'était pas intégrée par l'université. Si vous regardez en France, par exemple, le milieu universitaire ne s'est pas penché sur le sujet scientifique et de la Shoah jusqu'à très très récemment, en fait. Et il suffit de voir ce que Serge Clarcel a déclaré à la suite de la mort de Forisson. On est exactement dans cette logique-là, c'est que ils ont forcé les historiens à à étudier d'une façon très resserrée pour pouvoir faire pièce aux négations. Mais en même temps, il faut insister sur une chose, la plupart des faits étaient connus dès 1945, y compris, puisque les négationnistes se sont focalisés sur Auschwitz, y compris sur le nombre de morts, par exemple. Alors, d'un côté, le régime soviétique avait annoncé 4 millions de morts à des fins de propagande à Auschwitz, mais très rapidement, et c'est ce qu'on trouve dès le procès Nuremberg, on estime que le nombre de victimes est d'environ 1 500 000, ce qui est aujourd'hui le chiffre à peu près retenu par les historiens concernant le nombre de personnes envoyées vers Auschwitz. Donc, de fait, il y a une obligation des historiens de faire attention, mais en même temps, il y a quelque chose sur lequel il faut insister, c'est que l'histoire de la Shoah est quelque chose, d'un point de vue chronologique, qui est relativement neuf. C'est une histoire qui s'est écrite en quelques décennies à peine. La première grande étude est celle de Polyakov au début des années 50. Donc on est face à un sujet, d'un point de vue scientifique, qui est nouveau. Et les négationnistes sont engouffrés dans cette nouveauté en partie.
Valérie Gounet.
Moi, ce que je voudrais insister sur un point, c'que le négationnisme a aussi suscité quelque chose, ce sont les témoignages. C'est vrai que moi, je suis intervenue pas mal de fois avec les anciens déportés, anciennes déportées, et je sais que j'avais eu des discussions avec Marceline Loridan ou Ginette Colinca qui disaient que quand ils ont entendu ces négationnistes, et surtout avec Forisson dans les années 78, ces paroles qui étaient évidemment inentendables et insupportables, toutes s'exprimaient sur le fait qu'elles avaient l'impression d'être assassinées une seconde fois. Et c'est vrai que ces paroles ont été compliquées à être entendues, à être délivrées. Et beaucoup, en tout cas, et ça je pense que Tal Brunpan pourra peut-être le confirmer, c'est-à-dire beaucoup ont dit que ça a été, ils sont allés voir des élèves, etc., pour qu'on les entende, et évidemment qu'ils ont été écoutés.
Et Tal Brunpan, justement.
Effectivement, ce que Valérie vient de dire est très important, c'est que entre le moment où Forisson commence à être repris médiatiquement à partir de 78 et surtout le procès Barbie dans les années 80 qui va donner lieu à un déchaînement négationniste en parallèle, puisque à Lyon il va y avoir une profusion de tracts négationnistes, toute une génération de rescapés d'Auschwitz qui n'avaient pas témoigné se met à témoigner surtout oralement devant les classes. Des témoignages, il y en a eu qui ont été publiés dès 1945. Mais le sujet Auschwitz narré par les rescapés publiquement va vraiment prendre une importance grandissante dans les années 80 pour faire pièce aux négationnistes et ensuite va s'ancrer jusqu'à aujourd'hui en fait. Les témoins racontent ce qu'eux ont subi, avec en plus un paradoxe que les négationnistes vont essayer de pointer, mais ce paradoxe, c'est que ces témoins qui racontent ce qu'eux ont subi et ce que leurs parents ont subi sont ceux qui ont survécu, puisque le principe même de la Shoah, c'est l'assassinat de masse. Or, les négationnistes ont pointé que on a affaire à des gens qui sont vivants, en oubliant que c'est moins de 3% environ des juifs déportés de France qui ont survécu. Mais ces témoignages-là vont venir jouer un rôle très important dès le milieu des années 80, non seulement contre le négationnisme, mais d'une façon plus générale en matière de pédagogie et en matière de réappropriation d'un événement qui avait longtemps été ignoré par la majorité des gens, en fait, tout simplement parce que le processus de ce qui était la solution finale était difficile à saisir, notamment avec la confusion qu'il y avait sur la déportation vers les camps de concentration.
Oui, et d'ailleurs, cela posera d'ici peu de temps un problème et une question à tous les enseignants qui veulent continuer à enseigner l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et en particulier l'histoire de la Shoah, que de savoir comment justement reprendre différemment cette question du récit sur l'extermination une fois que tous les témoins auront disparu. Valérie Anne, vous vouliez intervenir?
Oui, je voulais demander à Valérie Gounet de nous éclairer sur un autre point, un autre cadeau, avec des tas de guillemets aussi, qui a été fait à Forisson et au négationnisme, c'est le relais international. À partir des années 70, alors vous avez cité tout à l'heure 1967 et le contexte au Proche-Orient israélo-arabe, mais il y a ensuite le relais magnifique du point de vue de Forisson donné par l'Iran.
Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Qu'est-ce qui se passe déjà, peut-être pour nos auditeurs, pour qu'ils se rendent compte de ça, en 78, avec l'apparition d'un article dans Le Monde, une discussion autour des thèses supposées de Robert Faurisson, un écho international qui est donné parce que Le Monde est un grand journal international, à ces thèses, et d'une certaine façon, une transformation, une sortie du placard des négationnistes ou des révisionnistes de l'époque, donc vers un écho où on peut discuter de ces thèses avec ou sans eux, mais en tout cas on peut en discuter, Valérie Higounet.
Alors en fait c'est vrai que cette tribune que fait paraître Le Monde le 29 décembre 78 va vraiment asseoir Robert Faurisson.
Il y a 40 ans,
ça va être l'affaire Faurisson, mais ce n'est pas une discussion. C'est-à-dire que Le Monde, il y avait Faurisson était un acharné, c'est-à-dire que il voulait absolument être publié. Bref, il envoyait des tribunes, etc.
Il avait envoyé une tribune aussi au Matin, qui avait été
à tout le monde, on va dire.
Journal de gauche.
Il fallait qu'on l'entende vraiment. Bon, Maurice Bardèche l'a quand même publié, parce que ça, pourquoi pas, quoi.
En défense de l'Occident, pardon.
Donc, il est publié. Mais en fait, Le Monde a quand même, non pas pour discuter, mais la tribune de Faurisson sur une pleine page du Monde, sur la demi-page, c'était Georges Vélers aussi qui intervenait. Mais non pas pour discuter, ça, il faut bien le dire. Et je pense vraiment beaucoup à Pierre Vidal-Naquet, qui disait « on ne discutera jamais avec les négationnistes ».
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il disait à Jean-Marc Turine, on ne discute pas avec les négationnistes. C'est Pierre Vidal-Naquet, donc interrogé pour France Culture, et dans un disque qui est maintenant disponible chez Frémaux et Associés.
Pierre Vidal-Naquet, dans votre livre « Les assassins de la mémoire », vous écrivez « On peut et on doit discuter sur les révisionnistes, on peut analyser leurs textes, comme on fait l'anatomie d'un mensonge, on peut et on doit analyser leur place spécifique ». Et vous achevez cette phrase-là en disant « on ne discute pas avec les révisionnistes ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire quelque chose de très simple, c'est que pour discuter avec quelqu'un, il faut avoir un terrain commun. Par exemple, deux astronomes peuvent discuter ensemble, mais un astronome ne peut pas discuter avec un astrologue. De même, je ne discute pas avec quelqu'un qui affirme que la Lune est faite de fromage de Roquefort. Si quelqu'un dit cela, je lui reconnais la liberté de le dire, mais je ne peux pas accepter de discuter avec lui. Et tout ce que demandent les négationnistes, c'est précisément que cette discussion s'ouvre. Et il n'est pas question que cette discussion s'ouvre. Il n'en sera jamais question. Parce que ce serait là reconnaître qu'ils constituent une école historique, alors qu'ils sont un groupe de faussaires.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Une fabrique de l'histoire qui débat dans l'émission d'actualité du vendredi du passage de l'antisémitisme au négationnisme avec Tal Brutmann, Valérie Hanin du mensuel L'Histoire, notre partenaire, Laurent Joly et Valérie Higounet. Je vous ai interrompu pour qu'on entende justement ce que disait Valérie Higounet, ce que disait Pierre Vidal-Naquet à Jean-Marc Turine autour de cette question de la discussion ou pas avec les négationnistes.
Donc ça, il faut vraiment être clair, il y est et tout le monde était clair là-dessus, hein, vraiment. Après, par rapport à l'internationalisation du négationnisme, c'est vrai que les années 78, 80, etc., ils sentaient bien, c'est vrai que le discours a fonctionné, entre guillemets, en France par rapport à cette spécificité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que des personnes qui étaient cataloguées de gauche, hein, l'ultra-gauche était assez camouflée, pourquoi des personnes pouvaient soutenir un homme comme Faurisson? Ouais, c'est vrai, au nom de la liberté d'expression, c'est vrai, mais et il faut bien voir que, par exemple, Noam Chomsky a préfacé, un linguiste, le célèbre linguiste, a préfacé Robert Faurisson dans des circonstances sur lesquelles on pourra peut-être revenir, mais si vous voulez, il y a eu vraiment une histoire Faurisson, une affaire Faurisson qui a fait connaître le négationnisme en France. Mais c'est vrai que il est resté assez limité à certains pays et le cadeau encore pour cette idéologie, c'est Roger Garaudy. C'est-à-dire que en 95, cet homme, cet ancien communiste dont on n'entendait plus du tout parler, on va dire, se fait publier par une nouvelle vieille taupe, hein, la maison d'édition aussi de Robert Faurisson, mais qui n'était pas destinée à ça a priori au début, un opuscule donc qui s'appelle « Limites fondateurs de la politique israélienne ». Et là, ça fait boum. C'est-à-dire que cet opuscule devient un ouvrage qui est traduit en X langues. édité à des milliers d'exemplaires. Bref, et c'est ce qui permet l'internationalisation du négationnisme avec un contexte international au début des années 2000 qui va être de nouveau porteur, évidemment. Et c'est vrai que là, il faut quand même donner quelques dates clés pour les auditeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Bon, je vous passe les détails, Garaudy est un peu fatigué, Forisson, on n'entend plus du tout parler, mais il se rend bien compte qu'il marche beaucoup mieux. Je vous parle des aspects physiques aussi hein, que Garaudy. Bref, c'est lui qui va reprendre le flambeau de Garaudy. Les aspects techniques, ils en veulent plus hein, à un niveau international. C'est-à-dire qu'on a bien senti que ça ne prenait pas. Il faut mieux être carrément clair et dénoncer le mythe du complot juif. C'est des idéologues du négationnisme qui disent ça, et ça, Garaudy l'a bien perçu aussi. Donc en fait, certains pays les invitent avec des tapis. Hein, je pense à l'Iran, évidemment, hein, de 2006, hein, qui organise, comme elle dit, un congrès de chercheurs négationnistes, hein, où il y a une soixantaine de chercheurs qui viennent, de chercheurs évidemment, il y a guillemets, hein, on est bien d'accord. Hein. Je pense aussi à Ahmadinejad, qui remet un trophée hein, en 2011 à ce chercheur exceptionnel, entre guillemets, qui est Robert Forisson, etc. etc.
Oui, et il faut dire qu'entre-temps, effectivement, vous avez insisté tout à l'heure, Valérie Gounier, pour dire qu'il y avait cette volonté de précision, d'analyse, etc. chez Forisson, qui s'était rendu à Auschwitz pour mesurer le terrain, lire les archives, etc. etc. et que ça ne fonctionnait plus. Parce qu'entre-temps, des gens qui étaient proches de lui, comme Jean-Claude Pressac, se sont retournés et vous avez publié dans un numéro de l'Histoire, justement, à des textes de Jean-Claude Pressac qui, partant de ce côté négationniste de l'époque, s'était retourné et avait démontré le contraire, justement, avec les mêmes arguments que ceux qui étaient brandis par Robert Forisson auparavant.
Oui, ça c'est un souvenir Valériane. Très précis pour moi, parce que publier Jean-Claude Pressac, et pour nous tous à la Revue de l'Histoire, parce que publier Jean-Claude Pressac, l'ancien secrétaire de Forisson, c'était quand même marcher sur des brisées un petit peu fragiles. Mais on l'a fait évidemment en toute connaissance de cause, avec tous les garants, François Bédarida, Philippe Burin, enfin qui nous ont aidés, et Jean-Claude Pressac qui, en effet, avec toujours la même manie du détail technique, enfin, c'était absolument terrible de travailler avec lui. Il avait retourné le raisonnement, mais avec la même morbidité et le même côté un peu nauséabond.
Valérie Gounet et Tal Brutmann.
Alors, ce qui est passionnant avec Jean-Claude Pressac, c'est que c'est vrai que cet homme a été engagé par Forisson, qui n'était quand même plus désirable aux archives d'Auschwitz, pour s'y rendre à sa place. C'était son émissaire. C'est un homme qui a un passé aussi, Jean-Claude Pressac, qui n'est pas très simple à appréhender. Mais ce qui est qu'un passé, c'est ce que je soulignais à demi-mot, Laurent Joly. C'est vrai.
À mot plein, vous disiez Laurent Joly.
Non, mais il était sympathisant hitlérien, il s'en cachait pas.
Ah oui, quand on va chez lui, d'ailleurs, il y avait moi, je suis allée beaucoup chez lui parce que j'ai travaillé avec lui. Ce que je veux dire, ce qui était intéressant avec cet homme, c'est ce retournement. Oui. Et il nous a expliqué la méthode de Forisson, du fait, cet ancien forissonien. Et ce qu'il met en évidence, qu'on a tous compris, mais lui avec ses mots, c'est quand il allait aux archives d'Auschwitz, envoyé par Forisson, il nous disait bien, mais ça on l'avait compris, je vous le redis, Forisson voulait me faire démontrer que, évidemment, sur l'aspect technique, ça veut dire que ces négationnistes, ce négationniste-là, part de ce postulat, pour cette méthode qu'ils exposent, cette méthode totalement scientifique. Oui, il faut bien revenir sur une méthode qui n'est aux antipodes de la nôtre quand même, hein, c'est les documents qui parlent pour nous.
Tal Brutmann.
Oui, je voudrais juste une chose, c'est que les négationnistes sont ciblés à Auschwitz. Alors, on peut l'expliquer pour plein de raisons, notamment parce que Auschwitz est un lieu très compliqué où vous avez à la fois un centre de mise à mort et un camp de concentration, et donc une confusion sur la nature des lieux et la compréhension des lieux. Mais ce qui est intéressant, ce sur quoi il faut insister, c'est que les négationnistes, par exemple, ne se sont jamais attaqués à des sites comme Treblinka ou surtout à l'opération T4, l'assassinat de certaines catégories de malades qui recourent aux mêmes procédés techniques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve sous la plume et dans les paroles d'un autre négationniste, cette fois non pas en France mais en Angleterre, David Irving, qui va avoir un procès en Angleterre face à une historienne, Deborah Lipstadt, et Irving dit « il faut couler le navire amiral qui est à Auschwitz ». En gros, si on s'attaque à Auschwitz et qu'on nie à Auschwitz, tout le reste est censé disparaître. Mais justement, ça montre bien la manipulation qu'il tente, c'est de se focaliser uniquement sur Auschwitz et d'oublier tout le reste volontairement. Si on prend la Shoah, l'assassinat systématique des Juifs, par quelques moyens techniques que ce soit, que ce soit des fusillades de masse ou d'autres moyens de mise à mort, mais aussi d'autres opérations comme l'opération T4 qui a recouru aux chambres à gaz, ou alors une autre opération moins connue, qui est celle de l'élimination des détenus des camps, aussi par le recours aux chambres à gaz, qui est l'opération 14F13. Donc, il se focalise sur un point, mais c'est la méthode négationniste, prendre un seul détail, dire qu'il est faux en multipliant les pistes erronées, et faire oublier l'ensemble du tableau. Et avec ça, on arrive au fait que ça n'a pas existé.
Oui, ce qui est très intéressant quand on regarde posément justement ce qui s'est passé entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui et la mort de Robert Faurisson, Laurent Joly, c'est qu'on voit bien effectivement que cette question de l'antisémitisme, comme le disait tout à l'heure Valérie Higounet, a choisi des évolutions. On a compris en écoutant Valérie Higounet que ça n'était pas le même antisémitisme, négationnisme au début, juste après la Seconde Guerre mondiale, tel qu'il était coordonné par Maurice Bardèche, et que d'autres générations s'étaient greffées dessus jusqu'à effectivement cette présence en Iran de Robert Faurisson dans les années 2000, Laurent Joly. Il y a des changements, des évolutions, des nouvelles générations, des nouvelles approches qui viennent nourrir
C'est pour ça qu'on était assez démunis face à... C'est vrai que le surgissement Faurisson, la réponse, c'était pas une réponse, tu as raison Valérie, mais le texte de Georges Wellers qui accompagnait...
C'était le directeur du Monde Juif.
Voilà, c'est un ancien déporté, donc totalement dérouté. Et c'est vrai qu'on savait pas comment prendre, cet olibrius, cet objet-là. Et on n'a pas encore parlé d'une chose qui est quand même fondamentale, c'est la loi Guesso. Parce que la loi Guesso, en 1990, entre guillemets, pour la France, réglé le problème Faurisson. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Faurisson est devenu un délinquant. Et parce que la loi Guesso, qui a été critiquée par les historiens, mais avec le recul, on se rend compte à quel point elle est bienfaisante. C'est-à-dire que, voilà, nier le génocide des Juifs, comme le fait Faurisson, ça devient illégal. Et jusqu'à la fin des années 80, Faurisson, on le voyait tout le temps. Enfin, il y avait des procès tout le temps. Après, il y en a eu moins.
Valérie Gounet.
On n'a pas parlé de quelque chose qui est fondamental aussi, c'est Internet. Dans le développement du négationnisme.
Bien sûr.
On parlait de l'internationalisation
Bien
tout
sûr.
À l'heure. Il est évident que entre la fin des années 90, c'est-à-dire à l'apparition d'Internet et aujourd'hui, vous imaginez ô combien le négationnisme a pu se développer. Et c'est vrai que là, la loi Guesso, c'est très compliqué.
Et vous travaillez sur l'Observatoire du conspirationnisme. Vous voyez combien, effectivement, on est passé de petites officines qui publiaient des petits libelles dans des librairies spécialisées, d'une certaine façon d'extrême droite, par exemple, ou d'extrême gauche, à autre chose avec justement ce développement du négationnisme sur le net.
Totalement. Moi, je peux vous dire qu'au début de mes recherches, dans les années 90, j'allais à la vieille taupe à Ogmios, vous voyez, dans les années 80, pour avoir de la documentation négationniste.
C'était des librairies donc spécialisées.
Bien sûr, pardon, spécialisées. Aujourd'hui, je n'y vais plus trop. Et c'est vrai qu'il y a Internet qui...
On trouve tout sur Internet.
On trouve tout. Et on parlait d'un site aujourd'hui, quand on s'est rencontrés, d'un site conspirationniste. Et c'est vrai que les éloges sont nombreux par rapport au décès de Faurisson. Et
on peut dire d'ailleurs que lorsque je suis là très tôt le matin, lorsque j'ai appris la mort de Robert Faurisson, c'est parce que un tweetos, comme on dit sur Twitter, disait « Enfin, un négationniste de moi ». Je ne savais pas, il ne citait pas Robert Faurisson. Donc j'ai pensé que ça pouvait être Robert Faurisson. J'ai tapé dans Twitter le nom de Faurisson. Et tout ce qui est apparu, ce sont les gens qui se plaignaient, enfin qui disaient « Oh là là, un homme de la liberté vient de mourir ». Et tout ça, ça venait de la sphère anglo-saxonne, etc., où il est effectivement, comme le disait Valériana, connu, et où tout un tas de milieux négationnistes le considèrent comme un chercheur reconnu, en l'occurrence Valérie Higounet.
Oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui, quoi, cette semaine a été très, très prolixe par rapport aux hommages, etc. Là, c'est vrai que je pense, par exemple, on a parlé d'Alain Soral, où on en a pas parlé, mais il y a Dieudonné, hein, Mbala, qui a fait un tweet au lendemain de sa mort, qui regrettait qu'on ne soit pas dans un monde normal, parce qu'autrement, Robert Faurisson, sa place était au Panthéon, quand même, hein, et qu'il s'assignait cette tâche de poursuivre l'œuvre de ce grand ami, vous voyez, avec des guillemets, bien sûr, on est bien d'accord, quoi. Et c'est vrai que là, j'ai sous les yeux, on parlait de Rivarol tout à l'heure, qui est quand même un hebdomadaire assez pointu, hein, évidemment lié à l'extrême droite, et c'est vrai que là, l'éditorial de Jérôme Bourbon, hein, qui est vraiment quelqu'un qui s'inscrit, hein, dans cette continuité du négationnisme, qui le dit sans aucun hommage. D'ailleurs, le titre, Robert Faurisson, un homme intrépide et indomptable au milieu des lâches, quoi. Et je peux vous dire que les deux pages d'hommage sont vraiment... sont vraiment très...
Dans la lignée de tout ce qui a été écrit depuis maintenant plusieurs dizaines d'années autour de ces questions-là.
Tout à fait. La parole, c'est presque normal.
Oui.
Le problème, c'est les nouvelles générations. Je me rappelle le dernier procès qu'il y a eu en 2017. On y était, Valérie et moi. La veille, j'étais en Suisse pour un salon du livre et j'ai une jeune femme blonde. Enfin, je dis qu'elle est blonde, une jeune femme qui est tout à fait charmante, on discute. Et puis elle finit par me dire, de toute façon, techniquement, on sait bien que les chambres à gaz, c'était pas possible. Et voilà, elle me dit, bon, mais c'est vrai qu'il y avait des témoins. Mais maintenant, des témoins, il va plus y en avoir. Donc c'est vrai qu'on peut être inquiet avec Internet pour l'avenir, parce qu'il n'y a plus de témoins. Et des idées fausses peuvent très facilement circuler. Une pseudo-science peut tout à fait se développer encore.
Tal Botman, brièvement.
Mais le problème, c'est ce que Valérie a pointé. Internet a joué un rôle de relance sur le négationnisme et lui a permis de prendre une place publique. Maintenant, sur la question des témoins que Laurent vient d'évoquer, en fait, il faut aussi relativiser la question, les faits historiques ne reposent pas exclusivement sur les témoins. Et les témoignages qu'ils ont laissés sont là. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas le problème. La question, c'est le négationnisme et en fait le conspirationnisme aujourd'hui qui repose sur les mêmes mécanismes et qui fait que on nie tout un ensemble d'événements depuis l'alunissage, depuis l'alunissage jusqu'à l'effondrement des tours jumelles à New York. Tout est niable du moment que ça conforte une idéologie. Et évidemment, au cœur de tout cela, il y a le négationnisme et qui est une autre forme de l'antisémitisme.
Merci Tal Brutman, merci à vous Laurent Joly. Je rappelle, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que c'est une somme qui condense, pourrait-on dire, ce que l'on sait justement du rapport de Vichy des nazis et de la persécution antisémite que vous venez de publier chez Grasset sous le titre de l'État contre les Juifs. Pour votre part, évidemment, Valérie Gounet, on peut citer l'histoire du négationnisme en France, mais également Robert Forisson, portrait d'un négationniste, qui est paru il y a maintenant 3 ou 4 ans, je crois, autant que je me souvienne. Voilà, 2012. Et puis on peut aussi conseiller à nos auditeurs d'aller voir la capsule, comme on dit à la radio, les idées claires que vous avez données pour le service de France Culture. En l'occurrence, aussi, on peut évidemment conseiller à nos auditeurs d'aller voir le dossier Céline, donc le procès Céline, dans le numéro de l'Histoire qui vient tout juste de sortir, Collaboration antisémitisme, le procès Céline. Il est temps de rejoindre la dernière rubrique de notre émission avec le site Rétro News de la Bibliothèque Nationale de France. Vous le savez, un article important des deux derniers siècles. Et là, nous sommes en 1905, dans Le Matin, un article signé Henri Déhou et qui s'intitule « L'orgueil homicide ». On y parle de la façon dont certains contremaîtres dans les usines de Limoges pouvaient avoir des pratiques sexuelles très particulières avec les ouvrières de ces usines de porcelaine.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain,
en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le Matin, jeudi 27 avril 1905. L'orgueil homicide. En ces temps-ci, il faut avoir le courage de dire toute la vérité, surtout à ceux qui, par fonction, ont la garde et la responsabilité des grands intérêts sociaux. Au moment où tous les droits acquis sont menacés par l'assaut révolutionnaire, quiconque en détient une parcelle n'a pas une faute à commettre, pas un tort à se donner. Nous rappelions naguère nos amis catholiques à ces vertus de l'Évangile dont une longue habitude du concordat avait, chez beaucoup d'entre eux, oblitéré la notion. Il nous faut, à présent que le calme est rétabli, tirer la moralité des événements de Limoges. Comment ne pas avouer que l'entêtement et l'orgueil patronaux ont donné, sinon une justification, du moins un prétexte aux violences criminelles dont la répression a été si terrible? Aucune question de salaire n'a motivé la grève générale. L'intérêt supérieur d'une industrie nationale n'était pas en jeu. Les délégués ouvriers ont déclaré devant le juge de paix qu'il reconnaissait sans aucune réserve l'autorité légitime du patron sur son personnel et son droit d'être le maître chez lui. Ainsi, la cause se trouvait dégagée de toute question d'intérêt matériel et de principe hiérarchique. Que restait-il donc ? Des griefs de nature spéciale et délicate contre un contremaître. Griefs que le patron, M. Haviland, par un orgueil déplacé, s'est refusé d'abord à admettre, même à entendre. Pour qu'il se décidât à en tenir compte, il a fallu que des boutiques fussent pillées, des barricades élevées dans les rues, l'assaut donné à une prison, près de 200 soldats écharpés. Il a fallu enfin que les fusils Lebel partissent tout seuls et qu'un malheureux enfant tombât mort au milieu de ses camarades dangereusement blessés. Qui pourtant oserait faire un crime aux ouvriers de la fabrique Haviland d'avoir protesté avec indignation contre la violation des droits les plus sacrés de la famille et de l'individu ? Les émeutes de Limoges ressemblent par leur origine aux premières révolutions romaines. N'est-il pas honorable pour les manufactures de cette ville qu'on y ait trouvé des Lucrèces et des Virginie ? N'est-il pas honteux, par contre, qu'on y retrouve aussi dans le personnel des contremaîtres les vices des Tarquins et des Claudius ? Fallait-il que tout le patronat se solidarisât pour couvrir de son autorité la résurrection des mœurs légendaires attribuées aux seigneurs féodaux ? Ne convient-il pas d'encourager dans le peuple le sentiment de l'honneur personnel, de la dignité humaine qui repousse comme une flétrissure d'esclavage l'obligation de livrer au chef la chair des femmes et des filles? Est-ce que ce droit fait partie de l'autorité patronale dont M. Haviland s'est montré si jaloux? Et l'avait-il délégué à son contremaître? Or, la plainte des ouvriers ne manquait pas de raison, puisque devant le juge de paix, on y a fait droit. Trop tard. Car alors la ville avait été mise à feu et à sang, l'armée contrainte de faire usage de ses armes contre des citoyens français. Tous ces crimes retombent sur l'auteur de la première faute, sur le patron entêté et orgueilleux, et sur ses collègues qui, par un faux point d'honneur, par une déviation coupable de l'idée d'autorité, ont uni leur résistance à la sienne. M. Haviland et les patrons qui se sont associés à lui ont si bien fait que la responsabilité initiale des abominables désordres de Limoges retombe sur eux, et que le rétablissement de l'ordre a ressemblé à une défaite patronale. Que ce triste exemple serve de leçon aux autres. Dans les revendications ouvrières, il y a un mélange de justice et de violence, de droits humains et d'instincts sauvages. Il appartient au bon patron de distinguer les uns des autres et de retirer toute cause légitime à la guerre sociale. Les mauvais patrons, infatués d'une autorité dont ils abusent, servent plus efficacement la cause de la Révolution que les pires meneurs. Henri Déhoux.
Voilà pour c'était à la une de ce jour, donc que vous pouvez retrouver sur le site de France Culture, mais également sur le site de Rétro News, la Bibliothèque Nationale de France, un texte lu aujourd'hui par Hélène Losseur. La semaine prochaine, nous traiterons de Juger et Punir, trois émissions, avec en particulier lundi, Claude Gauvard qui viendra nous parler de la façon dont on condamnait à mort ou pas au Moyen-Âge. Et puis, il faut savoir qu'effectivement, l'histoire continue sur France Culture pendant le week-end, en particulier samedi. Eh bien, l'émission de Jean-Noël Jeannet, Concordance des temps, s'intéressera à la tentation militariste japonaise avec Pierre-François Souiri. Et puis, on pourra rediscuter encore sur France Culture de cette affaire Forisson, du négationnisme et de la littérature dans l'émission de Marc Wessmann dimanche prochain avec Philippe Ménard, Catherine Cocchio et Michael Prasan. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, ainsi que à Tal Brutmann au téléphone pour cette émission. Et donc, à la semaine prochaine.